Dialogue entre Congolais, présenté par Alain Hurong.
Bonsoir. Élection du 28 novembre 2011. Quels sont les défis qui attendent les futurs présidents de la République et députés nationaux sur les plans sécuritaires, socio-économiques et politiques? Nos invités dans cette émission sont Georges Tchonzamata, économiste et coordonnateur technique du cadre de concertation de la société civile pour le dialogue sur les politiques. Monsieur Tchonzamata, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, CAPAC. Professeur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur Bioya, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, qui êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Gérard Kazingoufou de Benyonor Kivu, le plus grand défi qui attend le futur président et les députés, c'est le social du Congolais, une âme saine dans un corps sain, dit-on. Fidèle Dego de Bounia, en province orientale, les acteurs politiques doivent mettre fin à l'impunité, faciliter le fonctionnement d'une bonne justice, ainsi que l'instauration totale de la paix à l'est du pays. Je pense que ceux que nous allons voter doivent aussi veiller à l'application réelle de la décentralisation. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
À 11 jours de la tenue des élections, plusieurs analystes décrivent l'absence des vrais débats pendant cette campagne électorale. De l'avis des analystes et experts de la communication politique, la population est toujours sur sa soif. Elle attend encore des vrais débats d'idées qui déboucheraient sur une vision claire des défis qui attendent les futurs présidents de la République et les députés nationaux. Bref, c'est que sera le pays dans les prochaines années. À la deuxième semaine de cette campagne électorale, Radio Capi a diffusé un reportage à cet effet. Cependant, le constat sur terrain semble indiquer que la situation n'a pas évolué. Je vous propose de réécouter ce reportage de Jacques-Yves Molima.
La campagne qui devrait plutôt permettre aux différents candidats, d'une part, de défendre leur projet de société et de le faire adopter par la population, et d'autre part, persuader la population à adhérer à un courant idéologique prôné par un parti politique, passe à côté de la plaque. Pour le professeur André Lubanza, les médias devraient entrer en jeu.
Il est plus que temps que les médias s'ouvrent au débat de société. C'est ce qui manque le plus. On doit savoir, par exemple, en matière d'éducation, tel candidat, qu'est-ce qu'il propose? Quels sont les problèmes qui se posent dans le domaine de l'enseignement et comment ils comptent résoudre ces problèmes-là?
Et pour le professeur, ces projets ne seront valides que par le choc d'idées.
Un bon projet, on le présente contradictoirement à celui de l'adversaire. C'est à travers la contradiction que les gens trouveront qui est capable de réaliser ce qu'ils proposent.
Malheureusement, cette réalité est presque absente dans l'opinion congolaise. Peut-être cela pourrait changer dans la deuxième quinzaine de cette campagne.
Merci Jacques-Yves Molima. Avant d'aborder les défis qui attendent les futurs présidents de la République et députés nationaux, je vous propose juste un mot à chacun par rapport à cette absence de débat que dénoncent plusieurs analystes. Georges Tchonzamata, dans un atelier que vous avez dernièrement organisé, certaines organisations de la société civile appellent notamment les responsables politiques congolais à cesser de mobiliser leurs électeurs sur fond de tribalisme.
Je crois que c'est ça le danger auquel le pays court. C'est les replis sur soi. Et le sur soi que l'on voit le plus souvent et le plus rapidement, c'est la tribu, c'est la province. Et donc c'est ça les grands dangers auxquels la démocratie congolaise court derrière. Donc je crois que il faut absolument sortir de ces carcans tribaux. Parce qu'on concourt pour la nation. Actuellement, les candidats présidents de la République, ils vont devenir des présidents de la République démocratique du Congo et non pas les présidents d'une partie des Congolais. Deuxièmement, les députés, ce seront des députés nationaux. Ce ne sont pas des députés de leur circonscription pour lesquels ils se sont fait enregistrer à la CENI. Donc, ils doivent avoir un discours de Congolais, un discours national, parce que les défis qui se posent en écoutant un peu vos auditeurs tout à l'heure, ce ne sont pas des défis d'un clan, d'une tribu ou d'une province, ce sont des défis de la nation congolaise.
Donc vous confirmez également l'absence de ce débat d'idées.
Mais je confirme parce que, mais je fustige le fait qu'on croit que ce sont les médias qui sont fautifs. Non, les médias ne sont pas fautifs. Les médias cherchent l'information. C'est lui qui veut donner l'information, on va la recevoir. Mais donc c'est l'absence, c'est au niveau de l'acteur politique congolais qui est sec. L'acteur politique congolais est sec dans les idées, il est sec dans le discours. Et je pense aussi que c'est une grande responsabilité du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, parce que c'est son rôle de provoquer ces débats pour que les citoyens soient édifiés sur les matières sur lesquelles ils vont se prononcer. Donc s'il ne s'agit pas seulement de se prononcer sur les individus, il faut se prononcer, bien évidemment les individus, ça compte beaucoup, parce que c'est eux qui portent les discours. Mais il faut que les gens également se prononcent sur les discours même, le contenu même de leurs discours.
Professeur Philippe Biyoya, est-ce que vous partagez également cette analyse d'après laquelle le débat d'idées fait défaut pour l'instant dans cette campagne électorale?
C'est le contraire qui aurait étonné. Le débat, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de débat autour de ça. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la pauvreté a triomphé, en fait, de la politique. On ne fait pas, on ne cherche pas le pouvoir parce qu'on veut gouverner un avenir, on veut planifier un avenir, on veut donner un avenir au peuple. On veut le pouvoir pour accéder aux ressources et pour peut-être échapper à la pauvreté. Ainsi, comme le pouvoir s'est distribué depuis la fin des rébellions et consorts, selon les régions, les provinces, il est visible que les gens se positionnent par rapport au pouvoir et c'est selon les provinces qu'on se positionne. Les provinces qui sont positionnées par rapport au pouvoir veulent conserver leur position au pouvoir et les provinces qui n'ont pas accédé veulent accéder. Donc on ne peut pas avoir un débat d'idées, on n'a pas dans l'avenir. Le débat d'idées, c'est lorsque un pays a un avenir. Mais ici, le plus grand défi, c'est comment sortir la pauvreté. La démocratie même n'a pas un sens si la démocratie a comme... je crois que la pauvreté est un frein à la démocratie. La pauvreté ne peut pas être en fait un défi. Et au moins que ce soit un défi dans le sens de c'est vraiment contre quoi il convient de lutter. Mais je crois qu'il a bien circonscrit la chose. Les partis eux-mêmes ne sont pas en fait des structures qui influencent la façon de vivre, la façon d'être. Les partis, ce sont comme on appelle souvent des bigablos. Ce sont des structures qui sont là juste pour accompagner les ambitions de quelques-uns. Et les partis n'apparaissent que lorsqu'il y a des échéances. Quand il n'y a pas échéance, les partis ne fonctionnent pas. Même les partis qui sont au pouvoir. Donc c'est en fait, ce sont des dilemmes impossibles. Est-ce que les Congolais sont capables de faire la politique? Est-ce que les Congolais savent que la politique, c'est en fait d'abord l'art de vivre ensemble? Hein? C'est d'abord l'art de vivre ensemble et on ne vit pas ensemble pour en fait se condamner soi-même. Quelqu'un a écrit que la République, c'est l'espace qui permet à l'homme de s'épanouir. Mais lorsque la République n'est pas un espace d'épanouissement collectif, ça devient un lieu de confiscation, en fait, de ressources et du pouvoir, ça devient difficile à programmer, en fait, un défi démocratique réel. Hein.
Merci. Professeur Bob Kabamba, l'absence du débat d'idées était prévisible, d'après le professeur Biyoya. Est-ce votre analyse également?
Tout à fait. Quand on parle effectivement dans le contexte sociologique politique en RDC, il faut bien se rendre compte que malheureusement, on assiste en fait, il n'y a pas encore vraiment des partis politiques en tant que tels. Les partis politiques, c'est toujours trois pôles. C'est un pôle militant, c'est-à-dire les gens qui adhèrent à un parti politique, qui prennent des cartes et qui militent, qui font un travail de terrain. Ensuite, un parti politique, c'est un pôle politique qui sous-entend que l'on fait de la politique pour avoir le pouvoir. Et un parti politique aussi, en tant que troisième pôle, c'est un projet politique, c'est une idéologie. Malheureusement, dans le cas de la RDC, sur les 420 partis politiques qui ont été agréés, très peu de partis arrivent à avoir ces trois pôles de manière clairement définie. Alors, lorsque ce qu'on a à RDC, c'est essentiellement des partis politiques qui existent par de manière invertébrée et qui ne visent qu'une chose, que par le pouvoir. Et le pouvoir sans militants, le pouvoir sans idéologie. Et ce fait-là découle du fait que au niveau de aussi bien au niveau présidentiel qu'au niveau des législatives, le vote en RDC, il est un vote régional. Quand je dis régional, ça veut dire géopolitique. Est, ouest, centre. Et au niveau des parlementaires, c'est un vote ethnique, pour ne pas dire un vote communautaire. De ce point de vue-là, le politique qui crée un parti politique, non pas pour une idéologie ou bien pour des militants, mais il crée un parti politique dans l'optique de pouvoir représenter sa communauté au sein de l'Assemblée nationale. Et de ce fait, il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas d'idéologie, et tout ce qu'il y a comme débat, c'est qui va le mieux représenter sa communauté à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on remarque ce fait dans beaucoup de pays, ce n'est pas uniquement le fait de la RDC, on le remarque aussi dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique de l'Ouest, même en Afrique australe, où cette dimension communautaire, elle est fort importante. Or, il faut que ce soit la dynamique idéologique et la dynamique militante, donc des autres pôles qui doivent aussi être bien valorisés. Ce n'est pas encore le cas à RDC, on peut espérer quand même que progressivement, au fur et à mesure qu'il va y avoir des scrutins électoraux, au fur et à mesure qu'il va y avoir une éducation électorale, que l'électorat, que les citoyens congolais vont comprendre à faire la différence entre un élu qui représente ma communauté pour me défendre à l'Assemblée, un élu qui va défendre mon projet, qui va défendre ce dont j'ai envie que le Congo de demain soit.
Merci, professeur Bob Kabamba. Georges Chonzamata, revenons aux défis pour vous. Quels sont les défis qui attendent les futurs présidents de la République et députés nationaux? Commençons par le plan sécuritaire.
Je crois que sur le plan sécuritaire, il y a bien évidemment la question qui est récurrente, celle du mouvement de la population dans l'Est, où il y a encore de nombreux Congolais et nombreuses Congolaises dans des camps de placés aujourd'hui. Hein, il y a tous ces actes de banditisme dans des centres urbains. Toutes ces actions de déstabilisation que l'on connaît avec des groupes armés qui sont encore actifs dans un certain nombre de provinces du pays, et tout cela absolument appelle à une action importante qui est celle d'abord de la reconstitution de un certain nombre de services essentiels d'un État, notamment l'armée, la police, les forces de sécurité,
les services de renseignement,
tout ça doit être absolument reconstitué en même temps, pas seulement en faisant. On peut faire des lois comme on veut, on a fait des lois de réforme, la police aussi, mais il faut que cela se traduise par des actes et des moyens d'action qui peuvent rassurer la population par rapport à toutes ces réformes qui sont faites à travers un certain nombre d'actes des institutions de l'État.
Professeur Philippe Biyoya, la RDC, disait Georges Chonzamata, fait encore face aux problèmes de sécurité. Milices et groupes armés sont toujours actifs dans la plupart des provinces de l'Est. La question des réfugiés et des déplacés, les députés doivent faire des lois, mais s'assurer de l'application de ces lois sur le plan sécuritaire. Professeur, quel est votre avis?
Peut-être je voudrais redresser un peu votre phrase là. Nous sommes confrontés à l'insécurité. Non, nous, ce n'est pas la sécurité comme problème. Nous, c'est l'insécurité et il nous faut chercher à créer la sécurité. La sécurité, d'abord, se pose en termes de la pérennité de l'État. Nous sommes un pays dont on dit qu'il est sous la menace de balkanisation. Un pays qui est immense en Afrique centrale, mais qui apparaît aujourd'hui comme le pays le plus faible, le plus impuissant de tout le pays, qui est un problème non seulement pour le pays voisin, qui est un problème pour la région Afrique, qui est un problème pour le monde, dans la mesure où nous regorgeons sur notre sol des richesses qui font le convoitisme de toute l'humanité. Et un pays qui ne donne pas les preuves d'un avenir stable, d'un avenir sûr, c'est un pays dont on se demande à quoi ça sert la politique, parce que la politique devrait consister justement à donner de la visibilité, à obtenir cette stabilité, parce que tout le monde, la stabilité du Congo, c'est tout le monde qui la recherche. Donc ici, les plus grands défis, comment la gouvernance du Congo peut-elle en fait renouer avec l'essence de l'histoire et avec la centralité géographique? Dieu nous a donné un pays immense, un pays qui est destiné à être fort et puissant, mais nous sommes aujourd'hui un pays faible. Est-ce que le prochain chef d'État, le prochain gouvernement pourra être en mesure d'avoir une politique de sécurité? on a fait des guerres, nous sommes sortis des guerres, nous signons des traités de paix, sans négocier, en fait, la résolution des problèmes pour lesquels nous avons fait la guerre. Nous avons signé des paix pour obtenir, en fait, qu'on nous laisse tranquille et que nous gardions le pouvoir. On n'a pas fait la paix pour en fait, résorber les problèmes, pour éradiquer les problèmes qui avaient fait qu'on soit entré en guerre. On demande que le Congo ait un leadership parce que c'est le pays, nous sommes 78 ou 70 millions, comme on dit, en Afrique centrale. Et si vous faites l'addition du point de vue démographique de tous les pays qui nous environnent, ça ne fait même pas la moitié de ce qu'on dit que nous sommes une population. C'est que nous sommes toujours, en fait, une menace pour les pays voisins. Mais tant que nous serons un problème pour les pays voisins, je crois qu'il n'y a pas de gouvernance stable. Parce que la tendance à quoi? C'est que tous ces voisins vont prendre des dispositions contre nous et ils nous empêcheront, en fait, d'être là, ou alors ils vont nous gouverner. Et nous serons donc pratiquement presque une colonie, si pas de voisins de la région et du monde entier. C'est la plus grande menace et c'est ce qui devrait mobiliser tous les Congolais à se mettre d'accord parce qu'on n'affronte pas une telle menace avec un parti ou avec une ambition d'une personne. Ça, c'est un projet global partagé. C'est tout le monde qui doit être dans l'idée de ce que le Congo doit être dans le monde aujourd'hui, dans un monde global. Nous n'avons pas d'économie. Alors, nous avons une économie qui est sous traitance des organismes internationaux. Nous n'avons pas d'entreprise. Nous n'avons pas de moyens propres. Oui, c'est difficile. Et le peu de moyens qu'on a pu engranger, on le dépense à faire des élections qui, en fait, nous souhaitons se termineront sur un fonds de consensus qui pourront nous rendre plus forts. Parce que merci. Si on a dépensé autant d'argent pour qu'on s'affaiblisse encore après les élections, ça sera vraiment malheureux. On n'aura pas compris en quoi sert en fait la sécurité. Parce que la sécurité, c'est le premier objectif de tout gouvernement dans le monde entier.
Merci, professeur Biyoya. Professeur Bob Kabamba, la sécurité doit être un projet global partagé par tous, d'après le professeur Biyoya. Quels sont les défis sur le plan sécuritaire, d'après vous, qui attendent le futur président de la République et les députés nationaux?
Quatre points essentiels en ce qui concerne la sécurité. La première priorité, au fait, c'est la poursuite de la réforme du secteur de sécurité. Quand je dis poursuite de la réforme du secteur de sécurité, ça fait plusieurs années que l'on parle de la réforme. Malheureusement, cette réforme, elle tarde à pouvoir voir le jour pour que la RDC puisse avoir véritablement une république, une armée républicaine. Et cela dû au fait que pendant tout un temps, c'est lié au fait qu'il n'y a pas vraiment eu de volonté politique claire pour arriver à avoir une réforme de l'armée en vue d'une armée républicaine qui puisse assurer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la sécurité des frontières. Deuxièmement, il y a une dimension hyper importante quand on parle de la sécurité, c'est la présence des milices congolaises, parce qu'il faut bien se rendre compte que l'insécurité qui sévit en RDC est aussi le fait de la présence des milices qui restent encore actives essentiellement Nord Kivu, province orientale, Sud Kivu et Nord Katanga. Et aussi la présence de groupes armés étrangers qui restent encore fort, fort, fort présents malheureusement dans cette partie de la RDC. Mais en ayant une réforme de l'armée, cela veut dire aussi que c'est la présence de ces milices et ainsi des groupes armés étrangers peuvent être résolus parce que si on arrive à avoir une volonté, si on arrive à avoir une armée républicaine, et là il faut une volonté politique claire et avec l'implication de manière aussi ferme de tous les protagonismes. Troisième élément qui est hyper important en matière de sécurité, c'est concerne la question de la justice. On ne peut pas parler de sécurité sans qu'il puisse y avoir, bien sûr, une justice qui fasse son travail, qui puisse arriver à sécuriser les gens, qui puisse arriver à permettre à ceux qui ont été victimes d'obtenir réparation. Quand on dit réparation, donc on pense à toutes les violences qu'il y a encore à l'est de la RDC. Et dernier élément hyper important qui concerne en fait la réinsertion. On sait bien qu'à l'est, le Radio Capi nous a bien dit il n'y a pas longtemps qu'il y a plus ou moins beaucoup encore des miliciens qui traînent dans cette partie, à l'est essentiellement, mais aussi dans la province de l'Équateur. Et il y a encore beaucoup d'armes qui sont encore en libre circulation dans cette partie de la RDC et qui posent vraiment un véritable problème. C'est de récupérer ces différentes personnes et pouvoir les réinsérer dans un programme de réinsertion et de démobilisation pour qu'ils soient utiles à la population, mais aussi éduquer les gens qu'on n'est plus dans une culture de violence, mais on est maintenant dans une culture, dans une autre culture de construction d'un état de droit. Je pense à ça en matière de sécurité parce que c'est quatre éléments qui sont importants. La réforme de l'armée, la poursuite, mettre fin aux milices, promouvoir la justice
mais aussi l'éducation et la réinsertion.
Merci, professeur Bob Kabamba. Georges Chonzamata, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, a publié également les défis qui attendent le futur, a publié le portrait du président, futur président de la République et des députés nationaux, en y incluant les défis qui les attendent. Sur la question sécuritaire, ils disent que par rapport au président de la République, il doit mettre fin à la politisation et à la privatisation des forces armées, de la police, de l'Agence nationale de renseignement, des entreprises publiques et de la fonction publique dans son ensemble. Nous mettons l'accent sur la sécurité. Comment vous analysez cette proposition?
Écoutez, c'est parce que je crois que cette proposition correspond bel et bien à ce que doit être un État normal. Un État normal doit disposer d'un certain nombre de piliers. Parmi ces piliers, il y a bien évidemment l'armée, la police, les forces de sécurité, et comme l'a dit le professeur Bob Kabamba, il faut également la justice. Et je crois que il faut sortir de la tête des Congolais, et je crois que c'est le rôle des dirigeants du pays de faire sortir de la tête des populations congolaises que les forces de sécurité appartiennent à celui qui dirige, alors que ce sont des forces de l'État congolais. Et d'ailleurs, il y a eu dans un certain, à un moment donné de l'histoire, l'armée congolaise s'appelait force publique. Ce n'était pas pour rien cette assertion, c'est parce que il fallait que les gens sachent que c'est une force pour protéger l'État, le bien commun, qui était au service, donc une force qui était au service de toute la population, et non pas une force qui est une propriété ou qui est instrumentalisée par celui ou le groupe qui dirige, la personne qui dirige ou le groupe qui dirige. Donc voilà, je crois que cette proposition, cette recommandation du CALCC correspond bien à ce que les citoyens congolais, les citoyennes congolaises attendent de leur service public.
Alors, quand le professeur Philippe Biyoya propose, pense que la sécurité devrait être un projet global partagé par tous, est-ce possible?
Mais oui, bien sûr, la sécurité...
Dans le contexte congolais.
Mais oui, partout, dans tout pays où les gens se respectent, la sécurité ne doit pas être une affaire d'un service bien précis. Encore faut-il qu'il soit réellement au service de l'État et non pas au service d'un individu. Donc, l'armée, la police... Les affaires de la sécurité, ce sont des affaires des citoyens. Les citoyens dans n'importe quel pays sont concernés parce que il s'agit d'abord la sécurité d'un individu, c'est la sécurité de tous. Voilà pourquoi je crois que le professeur Biyoya a raison, que on ne puisse pas considérer une affaire de la sécurité comme étant quelque chose qui est fétiche, qui ne peut être traité que par un groupe de personnes. Encore faut-il qu'il soit réellement dans une conception des gens travaillant pour le bien de la nation plutôt que d'un bien d'un groupe.
Professeur Philippe Biyoya, très brièvement, le professeur Bob Kabamba a énuméré dans son premier point la poursuite de la réforme du secteur de sécurité, mais on se souvient que pendant cette législature, le Parlement a voté une série de lois en cette matière, mais ne faudrait-il pas que les futurs députés mettent aussi l'accent par rapport à l'application, à veiller à ce que le gouvernement applique effectivement ces lois qui sont adoptées dans ce secteur?
Merci. Je voudrais d'abord me racheter en saluant Bob et aussi Georges. On passe un peu le temps de se saluer comme on a commencé à répondre aux questions. Ce que le professeur Kabamba vous a dit, ça fait quoi? Les réformes, tout ce qu'il a dit, c'est bon, mais à condition que l'État existe. Parce que la réforme du secteur de sécurité, c'est en fait un exercice qui consiste à donner de la capacité à l'État à assumer sa principale mission de sécuriser en fait l'État et de sécuriser aussi la société dans la population. Parce qu'on est arrivé au constat que le Congo aujourd'hui, c'est un pays fragile. C'est un pays en fait failli. C'est un pays sans État au vrai sens du terme. À ce moment-là, pour suivre la réforme de la sécurité, c'est d'abord avant tout travailler à ce que l'État existe, qu'on sente l'autorité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sent pas l'État, on voit que des individus, et on entend des partis, on entend des provinces. Parce que quand vous entendez plus de provinces, on entend des partis. On entend des communautés, ça signifie que le bouclier protecteur, ce qui est commun à nous tous, le destin, la communauté n'existe pas. Donc, je crois que tout ce qu'on a dit, et que Georges a dit, tout ce que Bob a dit, c'est vrai. mais ça se rapporte à l'État. Les députés ne doivent pas faire de loi. Parce que ça sert absolument à rien de produire des lois sans que les institutions fonctionnent. Parce que si vous regardez cet exercice que nous terminons la mandature, les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale et le Sénat ont fonctionné pratiquement de la même manière, alors que ce sont trois institutions différentes. Ils devaient en fait avoir des politiques différentes qui devaient se renforcer. Donc nous devons, il ne faut pas élire des députés pour que les gens assistent et gesticulent pendant 5 ans en affaiblissant toujours les institutions, en affaiblissant la démocratie. Parce que la condition de sécurité, c'est aussi en fait la stabilité institutionnelle. Les institutions doivent être non seulement stables, c'est qu'on ne bouge pas, mais les institutions doivent gagner en force et en puissance. Or, vous aurez constaté que les révisions constitutionnelles, les disputes, les renversements des majorités, l'émiettement des partis et même des forces, l'opposition qui a gagné le pouvoir, la majorité qui a gagné le pouvoir, ne se sont pas retrouvés. Et 5 ans après, on est toujours en recomposition, on recommence éternellement. Il nous faut changer le contexte institutionnel.
Merci.
Nous sommes faibles à construire des institutions qui soient fortes.
Merci. Professeur Bob Kabamba, la RDC est un pays fragile, dit le professeur Biyoya. On sait aussi que la RDC est très mal cotée sur le plan de la gouvernance par rapport aux autres pays. Sur le plan socio-économique, que faut-il pour corriger cette situation?
Plusieurs choses. Je profite aussi pour saluer mes collègues qui sont avec vous en RDC. Maintenant, il fait plus froid ici en Belgique et vous avez la chance d'avoir beaucoup de chaleur. Donc, ça c'est au passage. Par rapport à votre question, donc il faut bien se rendre bien compte lorsque l'on parle effectivement de la fragilité de la RDC. Il y a plusieurs choses. Ça nécessiterait en soi même un débat clair au niveau de Radio Okapi. Ce qu'il faut se rendre compte, premièrement, c'est que la RDC n'a pas encore les outils de pouvoir comptabiliser réellement ce qui se passe sur le terrain en RDC, mettre ça aux normes des indicateurs du PNUD et autres. C'est-à-dire que lorsque l'on fait les classements, malheureusement, la RDC n'a pas encore intégré, n'a pas encore fait les réformes de comment remplir les indicateurs, mettre les bons chiffres là où il faut pour que la RDC soit différemment classée. Ça, c'est une chose. La RDC continue à être évaluée sur base des modèles qui ont été faits dans les années 70, 80, voire 90. Et la RDC n'a jamais modifié, en fait, la façon de présenter ses chiffres macroéconomiques. Et de ce fait, la RDC continuera toujours à être mal classée, puisque tout simplement, les chiffres de la RDC ne sont pas comptabilisés de manière correcte. Ça, c'est un autre débat. Alors, sur les aspects socio-économiques, il y a beaucoup à dire. Premièrement, il y a la question fondamentale qui concerne, bien sûr, pour le futur chef de l'État, la question des contrats chinois. Vous le savez, Radio Capi a déjà bien parlé à ce sujet. C'est-à-dire que ce contrat chinois, il est de combien? Il représente quoi? Il court jusque quand? Jusque quand est-ce qu'il va être réévalué, etc., etc. Ça, c'est un élément hyper important, d'autant qu'on parle quand même des chiffres astronomiques en ce qui concerne la RDC. Deuxièmement, par rapport toujours aux aspects socio-économiques, arrive l'autre importante question qui est le point d'achèvement PPTE que la RDC a obtenu cette année. Alors, mais les ressources qui sont tirées maintenant de ce point d'achèvement, où vont ces ressources? Où est-ce qu'on les retrouve dans le budget? Où est-ce qu'ils sont affectés? Je crois avoir lu dans le rapport du FMI, c'est que ces différentes ressources devaient aller pour le social. Est-ce que, de manière très claire, on a eu un transfert des ressources qui viennent du plan d'achèvement vers le social? Et quand on dit vers le social, c'est quoi le social? C'est les salaires, bien sûr, c'est aussi la santé, c'est aussi l'éducation. Est-ce qu'au niveau macroéconomique, on voit un changement entre, d'une part, le budget qui a été présenté en 2010 et en 2011, est-ce qu'il est différent? Il n'est pas différent. Qu'est-ce qu'on a mis dans tout ça? Donc il y a tous ces aspects-là. Autre chose hyper importante qu'il faut aussi souligner, c'est concerne la question de la gestion, toujours au niveau socio-économique, la question de la gestion de la forêt. Je vous laisse imaginer, effectivement, avec la forêt que la RDC a, et avec tout le débat lié à ce qu'on appelle la question de puits carbone, la question de la gestion du réchauffement climatique, le Brésil est à la pointe de ces différentes questions. Merci. La RDC, avec son poumon au niveau de la forêt, est absente de ces différentes questions. Et on sait bien que dans matière de puits carbone,
On parle des milliards de dollars qui peuvent arriver tout simplement à la RDC en ayant une gestion raisonnable de sa forêt.
Merci.
Et donc il y a toutes ces questions-là qui se posent et qui, de mon point de vue, qui sont absentes de la campagne électorale. On n'entend nulle part quelqu'un se poser des questions sur ces différentes questions, la forêt, les contrats chinois, les mines, l'avenir de ces différentes questions qui sont fondamentales. Et donc, malheureusement, c'est ça comme on revient à la première question. Puisqu'il n'y a pas de débat, c'est Radio Okapi qui doit mener ça.
Merci, professeur Bob Kabamba. Georges Chonzamata, je vous donne la parole juste après que nous ayons écouté certains auditeurs de Radio Okapi qui nous ont écrit pour présenter les défis qui attendent le futur président de la République et députés nationaux. On les écoute au téléphone de Samuel Kachak.
Chef des travaux Jean-Bernard Mibeko, Mbandaka provient de l'Équateur. À notre avis, les défis qui attendent les futurs dirigeants de ces pays sont les suivants. La pacification du pays, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, la restauration de l'autorité de l'État, l'amélioration des conditions de vie des Congolais et le respect des droits de l'homme.
Matumaini Franklin de Bukavu aussi de Kivu. Les défis qui attendent les institutions qui sortiront des urnes sont l'instauration de la sécurité et de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Elles doivent tout faire pour que la RDC retrouve sa place dans les concerts des nations. Elles doivent s'investir dans l'amélioration du social des Congolais. Mais en plus, le Parlement doit pouvoir faire son travail comme il faut en sanctionnant celui qui doit être sanctionné et contrôlé avec objectivité, car les contrôles et les suivis sont la base de la bonne gouvernance.
Arthur Erasme Longozi de Kindoumanie. Je crois que le grand défi pour le prochain président de la République, c'est le mieux-être de la population. Pour y parvenir, il faut de la volonté, accepter de réduire et pas supprimer les inégalités. Par exemple, entre la rémunération du ministre national et l'enseignant, que l'écart soit de 25%.
Yves Loubouli, j'habite Lubumbashi, au Katanga. Quant aux députés, ils doivent jouer pleinement leur rôle de contrôler l'exécutif et surtout de s'assurer de l'application de leurs recommandations, être des véritables avocats de la population, voter des lois qui favorisent la promotion du climat social. Quant au président de la République, il doit poursuivre la reconstruction, rapidement mettre en œuvre le DCRP afin que les acquis de l'annulation de la dette produisent des effets positifs dans le quotidien du Congolais. Reformer et doter l'armée et la police pour une meilleure sécurisation de la nation.
Maître Adrien Ilobakwe Ipero de Kananga au Kasai occidental. Je pense que le défi à relever est énorme dans la mesure où tous les secteurs de la vie au Congo sont par terre. Donc, il faudra au futur président de la République de tout recommencer à zéro en mettant un accent particulier sur l'homme, car si l'homme politique congolais est bien éduqué, tout ira pour le mieux.
Dans le même sens de autres réactions. Rex Mangala de Kalemio Katanga, le grand défi que nos futurs gouvernants doivent affronter, c'est la bonne gouvernance, améliorer le social du Congolais et assurer la protection des personnes et leurs biens. Fabien Kasonga de Kinshasa, je pense que parmi les défis, le futur président doit mettre en place une véritable armée et police nationale congolaise, citoyenne, professionnelle et dissuasive, lutter contre la corruption et favoriser les investissements sérieux, favoriser un climat politique dans un débat démocratique sous réserve du respect de la loi. Georges Chonzamata, on sent en écoutant les auditeurs que les défis, les attentes sont très grandes. Vous êtes économiste. Pour vous, sur le plan socio-économique, que faut-il faire?
Je crois que tout se résume en deux mots, volonté politique. Tout simplement. Parce que s'il n'y a pas de volonté politique, eh bien, toutes les lois que les citoyens et les collègues qui sont en ligne avec nous, professeur Bob Kabamba et
professeur Bioya.
Professeur Bioya ainsi que les compatriotes qui se sont exprimés à travers la République, eh bien tout ce qu'ils disent ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas véritablement la volonté politique. Si en écoutant les Jean-Bernard Mbandaka, notre compatriote de Bukavu, celui de Kindu, eh bien tout se rapporte à la mise en œuvre du DCRP. On a fait un DCRP 1, un DCRP intérimaire d'abord, qui nous a amené vers le point des décisions. On est allé avec le DCRP final, donc DCRP 1, qui nous a amené vers le point d'achèvement. Eh bien, tout cela n'était pas traduit dans les vécus quotidiens déjà. Pourquoi? Parce que tout simplement, et chaque année, il y a une loi budgétaire qui est votée au niveau du Parlement. Un, le parlementaire ne s'assure même pas de l'exécution de cette loi, parce que c'est leur responsabilité, quelle est l'évaluation de ce que les parlementaires, que ce soit les sénateurs et les députés nationaux et les députés provinciaux, ont fait des édits provinciaux budgétaires et des lois budgétaires nationales qu'ils ont votées chaque année. Rien du tout. Et parce que tout simplement, l'exécutif n'a jamais regardé cette loi budgétaire comme étant une exigence de gouvernance, mais plutôt comme un simple exercice cosmétique pour pouvoir se conformer, se dire, bon, on a la Constitution, on a voté une loi, mais les lois budgétaires n'ont jamais été appliquées. Voilà pourquoi tout le monde appelle à la mise en œuvre réelle du DSRP. Si on a appliqué le DSRP, qui vient d'être adopté, qui a été adopté le 31 octobre dernier par le Conseil des ministres, comporte cette fois-ci un cadre de dépenses à moyen terme. Et ce cadre de dépenses peut permettre effectivement que le gouvernement puisse, dans la loi budgétaire qui est proposée au Parlement, soit prise en compte un certain nombre d'aspects. Le professeur Bob Kabamba a soulevé un point très très important. Jusqu'aujourd'hui, les calculs économiques, les bilans qu'on fait, les rapports ne sont pas modernisés. Notre administration souffre encore énormément de problèmes de carences des compétences. Donc, il faut renforcer cette administration. La fragilité de l'État congolais vient d'abord du fait qu'elle n'a pas une administration capable de pouvoir répondre aux besoins, aux services que la population attend d'elle. Donc, c'est ça la grande préoccupation qui fait que nous ayons un État fragile. Deuxièmement, c'est la capacité de prise de décisions. Donc nous avons dit qu'il faut prendre des décisions, et des décisions qui vont dans le sens que les affectations de revenus nationaux touchent les vécus quotidiens des citoyens. Et pour toucher les gens, effectivement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de la réduction des tensions salariales. Ce n'est pas normal que dans un pays où on a un indice de développement humain le plus bas de la Terre, on ait des députés qui soient payés comme même plus que des députés européens. Ce n'est pas normal que nous soyons dans un pays extrêmement pauvre, mais où la corruption est parmi la plus criée du monde. Et donc, ce sont des choses pour lesquelles absolument il faut s'attaquer à deux piliers clés de l'économie, notamment l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui crée des emplois, qui crée de la richesse. Deuxièmement, la transformation à travers l'appui à des petites et moyennes entreprises. Merci. Et des petites et moyennes industries.
Il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Professeur Philippe Iyoya, nous abordons le plan politique en épinglant deux principaux points, la diplomatie et la décentralisation. Professeur, quels sont les défis à ce stade, brièvement?
Non, je crois que les deux tels que vous avez énoncés, ce sont des défis. Nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui, en fait, des relations avec le monde que nous puissions capitaliser, parce que nous sommes pas, en fait, nous ne faisons pas preuve d'une intelligence, en fait, qui nous permet de comprendre comment le monde évolue, où sont en fait les forces de puissance dans le monde et sur qui en fait faire ancrage. Nous ne sommes connectés sur personne. Nous ne sommes pas connectés sur une grande puissance en tant que pays ami. Nous ne sommes pas connectés sur un pôle de développement en tant que lieu en fait de captation de la puissance. Donc, nous avons un grand défi à relever. Nous devons réorganiser notre diplomatie. Réorganiser la diplomatie, c'est pas de réduire le nombre des ambassades et de faire. Non, non. Il faut d'abord connaître comment le monde évolue et savoir où dans le monde ils ont fait quoi et où il faut être. Vous parlez de la décentralisation. La décentralisation, je crois, c'est le plus grand défi. Parce que le pays Congo tel qu'il est, aujourd'hui, quand on parle de la fin de la non-modernisation de l'administration, nous savons que c'est une faillite totale quant à la façon de gouverner l'actif national. Je crois que la décentralisation ne doit pas être simplement une sorte de redistribution ou de réajustement du pouvoir de l'administration avec des difficultés quant au contrôle des ressources des provinces. Nous devons travailler à donner, en fait, de la force, de la puissance économique aux entités décentralisées. Ils doivent être non seulement, en fait, des sites de pouvoir, mais doivent avoir la possibilité de prendre en charge certaines charges de la République. Ils doivent être en mesure, en fait, de créer, par exemple, des richesses ou de faire certaines infrastructures tout ne doit pas être fait par le gouvernement central. Nous avons un pays par excellence que nous devions en fait regarder, la France, parce que la régionalisation en France a un sens. On ne crée pas des provinces comme entité décentralisée simplement parce que on veut les contrôler politiquement pour des visées électoralistes.
Merci.
Nous devons aussi travailler à construire la force nationale, parce que le plus grand défi du Congo, nous ne sommes pas une force nationale à l'interne comme à l'externe.
Merci.
Je crois que tous les grands défis, ça avait été résumé dans l'accord global inclusif, parce que malheureusement, on n'avait pas mis ça en pratique, parce que la corruption a triomphé, malheureusement, dans le gouvernement qui était censé préparer l'avenir.
Merci.
Tant que nous ne préparons pas l'avenir, tout le reste que nous disons là, ça ne pourra pas marcher. Je voulais dire une chose avant de terminer. La
CRP
doit être une mesure indicative et non pas une alternative. Le pays n'a pas de politique économique. On ne doit pas s'en cacher. Le pays ne fait rien pour la promotion des opérateurs économiques nationaux. Le pays donne tout aux investisseurs étrangers, ce qui crée un déséquilibre qui fera que nous ne saurons jamais rien faire. On ne pourra pas, en fait, s'attacher à résoudre la désespérance sociale.
Merci, professeur Philippe Biyo. Et à professeur Bob Kabamba, il y a l'honorable Odiane qui dit: le défi sur le plan économique est l'éradication de la corruption, la restauration de la bonne gouvernance. Sur le plan politique, le futur président doit laisser chaque institution jouer son rôle en restaurant la sécurité et l'autorité de l'État. Professeur, un mot également sur la décentralisation et à la diplomatie. Brièvement.
Merci beaucoup pour... brièvement, la décentralisation ne sera jamais effective sans élections locales. Donc il faut qu'il y ait des élections locales pour que la décentralisation soit effective et qu'elle soit véritablement efficace. Par rapport à la diplomatie, malheureusement, on doit le constater que c'est aussi un des chantiers énormes qui a été négligé pendant quand même plusieurs années, c'est que la RDC est absente de toute une série de débats au niveau international sur des questions fondamentales. On voit des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme d'autres pays comme le Rwanda, sont très 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 actifs au niveau international sur des questions fondamentales de l'avenir de la planète. La RDC, avec tout ce qu'elle a comme potentiel, malheureusement, elle est absente. Donc, concernant la démocratie, la décentralisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections locales. Sans élections locales, on aura du mal à avoir véritablement une décentralisation qui soit effective et au service des Congolais et des Congolaises.
Alors, professeur, en un mot, votre conclusion par rapport aux défis qui attendent les futurs dirigeants, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Le défi, comme vous l'avez bien souligné dès le début, il y a beaucoup de défis qui attendent donc le futur président et la future chambre. D'abord l'économie, comme vous l'avez mis, la sécurité et aussi le niveau politique. Il y a aussi un élément important que je n'oublie pas surtout, c'est la réconciliation communautaire. C'est-à-dire qu'après les élections législatives, on va avoir beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits communautaires dans les différentes circonscriptions.
Merci.
Il est important de pouvoir arriver à prôner une véritable réconciliation.
Merci.
Parce que le vote est pas ethnique, les gens doivent se réconcilier et de pouvoir reconstruire la RDC.
Merci. Georges Tonzamata, un mot en guise de conclusion également par rapport aux défis.
Je crois que par rapport aux défis, effectivement, on a parlé de la décentralisation, mais je voudrais ajouter un mot là-dessus. La décentralisation, c'est aussi d'abord les transferts des compétences. Tant qu'il n'y aura pas véritablement un transfert des compétences du central vers les provinces ainsi que vers les entités territoriales décentralisées, il n'y aura jamais de véritable décentralisation.
Professeur Philippe Biyoya, un mot pour conclure également.
Un mot, il faut que dans ce qui vient, que l'homme congolais soit au centre de tout. Notre problème, c'est qu'on fait la politique tout simplement comme ça là. Au centre de toute idéologie politique, il y a l'homme. La situation de l'homme congolais, sa valeur qu'on veut lui donner au Congo et dans le monde, permettra qu'on ait des intelligences économiques, politiques, institutionnelles et sociales qui travaillent pour la promotion de l'homme. On ne doit pas travailler pour les ambitions.
Merci. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission sur radiocapi.net ou réécoutez-la en rediffusion à 4h15 heure de Kinshasa. Restez branchés sur la radio de la paix. Au revoir.